Vous écoutez, on lit pour vous.
Le télétravail, l'adaptation souvent négligée pour les personnes en situation de handicap. Un texte de Kim Auclair, paru le 11 juin 2025 dans Les Affaires. Plus d'un million de personnes en situation de handicap possèdent des compétences et des qualifications qui sont recherchées sur le marché du travail. Malgré ça, selon la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, elle se trouve régulièrement confrontée à des employeurs qui refusent de les embaucher. En début d'année, j'ai reçu un courriel d'une personne avec qui j'échange depuis un certain temps. Elle est devenue sourde en mars 2020 à la suite d'une otite bilatérale qui a dégénéré en mastoïdite. Elle cherchait des conseils pour mieux accepter sa surdité et apprendre à exprimer ses besoins. Cette personne souhaite rester anonyme. En septembre 2024, elle a dû quitter son emploi, son employeur n'ayant pas voulu prendre le temps d'écouter ses besoins en matière d'accommodement liés à sa surdité. Citation : J'ai demandé à plusieurs reprises d'avoir l'opportunité de leur expliquer mes besoins et ils n'ont pas été ouverts. Ils ont plutôt envoyé une lettre à mon médecin avec leurs exigences non négociables pour mon poste, dont des exigences que je ne peux remplir compte tenu de ma surdité, et m'ont proposé de m'enlever mon poste de superviseur pour me redonner mon ancien poste. Fin de citation, m'a-t-elle confié. Cette situation est dommage, surtout qu'en 2025, la pénurie de main-d'œuvre reste bien réelle dans plusieurs secteurs. D'un côté, les patrons disent qu'ils ne trouvent pas assez de bons travailleurs. De l'autre, les personnes en situation de handicap, visibles ou non, sont plus souvent sans emploi malgré leur talent. Le télétravail pourrait régler ce problème, mais on ne l'utilise pas assez. Ce que je trouve spécial, c'est que certaines entreprises font des adaptations à l'interne, ce qui est vraiment super, comme des rampes d'accès, des toilettes adaptées, achètent des outils adaptés et font des formations sur l'inclusion. Mais encore aujourd'hui, certains employeurs refusent souvent la solution la plus simple, laisser la personne travailler de chez elle. Une solution qui est gagnante pour les deux parties, à mon avis. Le télétravail, un droit, pas un cadeau. Coralie Boyer, responsable des partenariats et rédactrice chez Capable Média, est une mère monoparentale vivant avec une paralysie cérébrale. Son expérience illustre parfaitement pourquoi le télétravail devrait être vu comme une adaptation essentielle. Citation : Le télétravail me fait gagner du temps. Avant, je passais 2 heures par jour dans les transports adaptés. Je suis plus créative chez moi et mon travail en est meilleur. Mais quand j'ai demandé cette option après mon congé de maternité, mon ancien employeur a refusé. J'ai dû choisir mon travail ou voir ma fille. Fin de citation. En effet, avec son horaire de 11h30 à 19h et les délais du transport adapté, Coralie ne rentrait jamais chez elle avant 20h. Elle ne voyait pas sa fille de la journée, malgré plusieurs demandes de changement d'horaire ou de poste. Citation : J'aimais mon travail, mais quand je l'ai quitté, mon employeur m'a simplement dit qu'il ne pouvait pas m'offrir de meilleures conditions. Le télétravail m'a finalement permis d'être présente pour ma fille, ce qui fait mon bonheur. Fin de citation. Ce refus révèle une incompréhension profonde de ce qu'est vraiment le handicap. Le problème n'est pas la personne, mais un environnement de travail rigide qui refuse de s'adapter aux réalités individuelles. Le coût caché, l'énergie perdue et le manque de productivité. La personne qui m'a inspirée pour cet article et qui souhaite rester anonyme par peur de représailles explique ce que beaucoup d'employeurs ne voient pas. Citation : Je dois dépenser beaucoup plus d'énergie pour communiquer. C'est un peu comme une personne qui apprend une nouvelle langue. Au début, elle traduit mot à mot dans sa tête chaque chose qu'elle doit dire avant de la dire. Donc, pour exprimer une phrase de 5 mots, elle en a besoin de 15. 5 mots en français, ensuite traduire chacun des 5 mots en anglais, se valider, puis finalement dire les 5 mots en anglais. Ouf! À la fin de la journée, tout ça demande beaucoup d'énergie. Quand je travaillais sur site, au bureau, j'étais entourée de 64 personnes. On était tous dans des réunions virtuelles différentes, mais dans un bureau à cloisons ouvertes. C'était très difficile pour moi de me concentrer sur la réunion où j'étais sans être dérangée par les autres autour. Je devais souvent demander de répéter, reformuler pour être sûre d'avoir bien compris, poser des questions, etc. Quand je travaillais à la maison, je pouvais être pleinement présente à la réunion sans ces nuisances. Fin de citation. Pierre-Yves Sorel est gestionnaire de contenu à son compte chez Synergia Web. Il vit avec un colobome, une malformation oculaire qui affecte beaucoup sa vision, ainsi qu'un TDAH. Il décrit ce coup caché comme l'énergie perdue à faire attention à tout ce qui m'entoure, une taxe que les personnes en situation de handicap paient chaque jour au bureau. Citation. Être dans un bureau demande beaucoup plus d'énergie dans ma situation, alors qu'en télétravail, toute cette énergie peut servir à autre chose. Ce n'est la faute de personne, c'est simplement plus facile pour moi de ne pas avoir à me déplacer, ni à faire attention à tout ce qui m'entoure avec ma vue et mon trouble de l'attention. Fin de citation, dit-il. François Bernier, président d'Horizon B2B, vit avec une amyotrophie spinale, type 2, et partage le même avis. Citation. Le télétravail, c'est ce que je préfère. Je suis beaucoup plus productif et j'utilise moins d'énergie. L'hiver, c'est aussi impossible pour moi de me déplacer chaque jour. Fin de citation. Ça montre bien comment l'hiver peut créer des barrières pour certaines personnes en situation de handicap, des barrières que le télétravail peut facilement lever. Moïse Lanet, développeur web à son compte chez DigitApp, vit avec une surdité, une perte de vision et de l'épilepsie. Lui aussi est convaincu que le télétravail offre une vraie opportunité de travailler dans un environnement adapté à ses besoins, tout en restant productif et engagé. Citation. Avec les défis liés à mes différentes conditions, ainsi qu'à la grande fatigue causée par ma santé et mes traitements, le télétravail facilite grandement mon quotidien. D'autant plus que je travaille dans le domaine du web et de l'informatique, où ce mode de travail s'intègre naturellement. Depuis la pandémie, je n'ai pas rencontré de difficultés à travailler à distance, mais avant la COVID, c'était une toute autre réalité. Que ce soit avec un employeur ou un client, le télétravail était souvent perçu comme impossible ou très difficile à mettre en place. Fin de citation, exprime-t-il. Tout le monde y gagne. Le changement à faire est simple, voir le télétravail non comme une exception, mais comme une adaptation normale. Cette approche aide tout le monde. 1. Pour les patrons, plus de talents disponibles, moins d'absence, plus de productivité. 2. Pour les personnes en situation de handicap, moins de fatigue due au déplacement, plus facile de gérer les rendez-vous médicaux, travail dans un lieu adapté. 3. Pour la société, moins de chômage chez les personnes handicapées, plus de diversité au travail. Pour les personnes qui ont du mal à se déplacer, le télétravail leur permet de montrer leurs talents sans être épuisées par les trajets. Pour celles qui ont besoin de calme, il offre un lieu où elles peuvent donner le meilleur d'elles-mêmes. Comment offrir le télétravail comme adaptation? Si vous désirez vraiment utiliser tous les talents au sein de votre entreprise, voici des actions simples que vous pouvez mettre en place pour que le télétravail soit une adaptation en soi si une personne en situation de handicap le demande. 1. Inclure le télétravail dans vos règles d'adaptation. Considérez-le comme une véritable adaptation, au même titre que les aménagements nécessaires dans votre environnement de travail. Tania Boucher, consultante RH et EDI chez Coesia, ajoute également que si vous avez une politique de télétravail, vous pouvez préciser dedans que le télétravail peut constituer une mesure d'accommodement. Citation. Cette astuce permettra d'éviter les zones grises et le sentiment d'injustice. Fin de citation, précise-t-elle. 2. Partir du principe que c'est possible. Plutôt que de demander de nombreuses preuves, partez du principe que le télétravail est réalisable. Tania Boucher recommande de vous intéresser avec ouverture aux stratégies déjà mises en place par la personne pour accomplir son rôle. Bien souvent, elle a développé des façons efficaces de contourner certains obstacles, ce qui peut vous rassurer sur la faisabilité. 3. Formez vos équipes. Sensibilisez votre personnel et désigner dès le départ une personne responsable qui s'assurera de communiquer régulièrement avec l'employé en situation de handicap que vous venez d'embaucher. Selon Tania Boucher, c'est une excellente façon de vérifier que tout se passe bien et d'identifier les améliorations à apporter en continu, tout comme vous assurer qu'elle dispose de tout ce dont elle a besoin pour bien travailler depuis chez elle. Et le syndicat dans tout ça? Dans un milieu syndiqué, offrir le télétravail comme mesure d'adaptation peut susciter des questionnements quant à l'équité perçue entre les membres du personnel. Tania Boucher mentionne que lorsqu'une mesure d'accommodement est accordée pour des raisons de santé ou de handicap et qu'elle est ensuite réclamée par d'autres collègues, cela peut créer des tensions si le cadre d'application n'est pas clair. Cette dynamique peut avoir pour effet de transformer un accommodement initialement raisonnable au sens juridique en une mesure déraisonnable sur le plan opérationnel ou financier si elle doit être généralisée. Citation. C'est pourquoi il est essentiel d'intégrer dès le départ les principes d'équité, de droit de la personne et d'inclusion dans le dialogue employeur-syndicat. Clarifier que le télétravail est une mesure d'accommodement individuel et non un avantage généralisable permet d'éviter des malentendus ou des attentes irréalistes. Fin de citation, explique-t-elle. Les comités de relations de travail peuvent jouer un rôle clé pour soutenir ce dialogue et établir la confiance. L'aménagement spécifique est légitime, il ne doit pas être perçu comme une brèche dans les conditions collectives. Intégrer l'EDI dans les priorités syndicales, ce n'est pas faire des compromis, c'est au contraire s'assurer que les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap soient respectés tout en maintenant une cohésion d'équipe. Enfin, en écoutant les besoins de la personne en situation de handicap et en lui faisant confiance, vous en sortirez gagnant, car vous pourrez répéter cette expérience avec d'autres personnes. Des talents qui méritent d'être accueillis. Refuser le télétravail à une personne en situation de handicap, malgré une demande claire et expliquée, ce n'est pas toujours une injustice, mais bien souvent, c'est un manque d'ouverture. Il existe des contextes où ce n'est pas possible, bien sûr. Mais combien de fois refuse-t-on sans même avoir pris le temps d'explorer sérieusement la possibilité? La plupart des entrepreneurs en situation de handicap que j'ai rencontrés jusqu'à présent se sont lancés en affaires par nécessité. Comme cette personne qui préfère rester anonyme et qui m'a confié avoir songé à devenir travailleuse autonome. Par chance, elle a finalement trouvé un emploi dans une entreprise qui a su comprendre ses besoins. Avez-vous pensé, sinon, à tous les talents que votre entreprise pourrait perdre en refusant cette adaptation pourtant si simple? C'était le télétravail, l'adaptation souvent négligée pour les personnes en situation de handicap, un texte de Kim Auclair paru le 11 juin 2025 dans Les Affaires.
À Brodeur, sensibiliser la communauté à la diversité des handicaps. Un texte de Mélinda Trochu, paru le 12 juin 2025 sur le site de Radio-Canada. Depuis plusieurs semaines, plus de 70 élèves de l'école Victor Brodeur à Esquimalt s'affairent sur un projet communautaire afin de sensibiliser la communauté éducative à tous les handicaps, visible comme invisible. Une fresque sera dévoilée vendredi et des ressources, notamment des vidéos, sont également produites dans le cadre du mois de la fierté des personnes handicapées qui se tient en juillet. Il y a des personnes qui ne peuvent pas entendre. Il y a des personnes qui ne peuvent pas voir ou il y a des personnes qui ne peuvent pas parler. Jackson McBride, élève de troisième année, est vraiment content de participer à ce projet. Il dit qu'il a notamment appris qu'il ne faut pas faire de mauvaises choses aux personnes en situation de handicap. À ses côtés, des élèves collent des déchets pour représenter le drapeau du handicap aux multiples couleurs. Le blanc, c'est comme quelqu'un qui a un handicap invisible, précise Beraka Datia Inesia dans la même classe. Une autre élève, Carmen Coal explique qu'elle savait, avant de commencer cette fresque, que des personnes peuvent avoir besoin d'un fauteuil roulant après un accident et qu'il y a beaucoup de sortes de handicaps. Une fresque en matériaux recyclés. Alors que les dernières retouches sont apposées sur la fresque, qui sera installée dans l'agora de l'école, Valérie Delors, conceptrice initiale du projet et artiste, explique avoir travaillé avec Elisabeth Roche et Mayabel Goers-Duquette sur ce projet aux multiples facettes. J'aimais bien l'association entre les objets qui vont à la poubelle et le fait que ceux qui ont des handicaps sont souvent considérés comme des personnes moins bien pour la société. Et je trouve ça totalement injuste. Même les personnes qui ont des difficultés dans la vie ont le droit d'avoir leur place comme tout le monde. Une citation de Valérie Delorte, artiste. Son mari, Simon Delorte, est aide pédagogique spécialisé APS à Victor Brodeur. Il a répondu aux questions d'élèves de 9e année qui font des vidéos auprès de l'APS et d'élèves en situation de handicap pour comprendre leur vie et la célébrer. Être APS, c'est donner un soutien personnalisé à des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Il y a de la surveillance et de l'accompagnement, explique celui qui exerce cette fonction depuis 3 ans. Devenir des alliés. Alors que les jeunes lui demandent quelle attitude adopter en société pour devenir de véritables alliés, il répond que la première étape est de s'informer. Ça permettra aussi de se remettre en question, de ne pas avoir toujours des idées reçues sur tel ou tel handicap. Directement, poser des questions à la personne qui est handicapée. « Parle-moi de ton handicap. » C'est clairement une question ouverte et qui est importante pour eux, pour nous. L'attitude la meilleure à avoir, c'est l'empathie. Et concrètement, de remarquer si l'environnement est accessible à ces personnes. Une citation de Simon Delorte, APS. Le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, CSF, précise qu'il y a plus de 200 APS dans ces écoles à travers la province, mais n'a pas indiqué le nombre d'élèves en situation de handicap scolarisés et si une politique spécifique ou un plan d'accessibilité est en place. Aviana Marlin, en 9e année, explique qu'au cours des entretiens avec les APS et des élèves en situation de handicap, elle a compris l'importance de vraiment les traiter comme des personnes et de ne pas parler comme s'ils n'étaient pas là, s'ils sont présents avec nous. Elle espère que les vidéos produites deviendront une source d'information au CSF. L'adaptation, la clé de l'inclusion. Ce sentiment est partagé par Mayabel Goers-Duquette, enseignante d'art remplaçante, qui chapeaute le projet et qui l'a documenté pour créer des ressources pédagogiques en français, notamment pour d'autres enseignants. Elle-même a été APS pendant 3 ans. Nous avons des manières pour accommoder des élèves avec des besoins de mobilité. Nous pouvons accommoder des élèves avec des besoins sensoriels. Par exemple, les enseignants portent des microphones pour aider l'apprentissage en cours. L'enseignante explique que beaucoup de nouveaux termes ont été expliqués aux élèves. Que veut dire la représentation de santé mentale? Que veut dire la représentation des handicaps sensoriels? Que veut dire le capacitisme? Au-delà du vocabulaire, elle insiste sur l'intersectionnalité entre la fierté des personnes en situation de handicap et l'élément écologique, dans la fresque. Elle fait remarquer que les changements climatiques toucheront d'abord celles et ceux ayant des difficultés. Lors des entretiens en vidéo, 2 élèves ont adapté leurs questions aux élèves. Avec Joshua James Herman, en 8e année, elles ont abordé le système solaire. Avec Elliot Burns, en 1re année, elles ont lu un livre. C'est un exemple parmi tant d'autres de l'adaptation des activités en fonction des centres d'intérêt des élèves en situation de handicap prônée par Simon Delorte. C'était, à bras d'heure, sensibiliser la communauté à la diversité des handicaps, un texte de Mélinda Trochu, paru le 12 juin 2025 sur le site de Radio-Canada.
Garantir l'inclusion des personnes en situation de handicap, la douce magie d'un espace habilitant. Un texte de Lefay Galahad et Pierre-Yves Thériault, paru le 25 janvier 2023 dans La Conversation. Imaginez être Harry Potter, jeune humain étudiant à l'école de sorcellerie Poudlard. Vous décidez de rendre visite à votre ami Hagrid, gardien semi-géant de l'école. En arrivant chez lui, tout vous paraît beaucoup trop grand, trop lourd, inaccessible. Vous vous sentez terriblement petit, vulnérable et impuissant dans cet espace, pourtant parfaitement adapté à Hagrid. À l'inverse, ce dernier se retrouve bien embarrassé lorsqu'il doit partager une table avec les autres employés de l'école. Il est trop grand, trop gros, renverse tout sur son passage. Il se sent terriblement encombrant, isolé et maladroit. Harry et Hagrid vivent, chacun leur tour, une situation de handicap qu'ils auraient aimé éviter. Respectivement doctorants en sciences biomédicales et chercheurs en ergothérapie à l'UQTR, nous avons travaillé à l'élaboration d'un concept, celui d'espace habilitant, qui permettrait d'améliorer ces situations encore bien présentes dans le monde des magiciens comme du commun des mortels. Le concept d'espace habilitant identifie les principaux attributs nécessaires à la conception et l'adaptation des espaces. Nous vous le présentons ici dans une approche ludique autour de l'univers d'Harry Potter. Une question d'espace. Plusieurs courants se sont intéressés à la possibilité de rendre les espaces de vie plus inclusifs, permettant ainsi à chacun d'y réaliser ses activités. Lorsque l'on parle d'espace, on ne pense pas seulement à un environnement physique, mais également à tout ce que cela implique. Les gens qui y évoluent, le matériel présent, les conditions environnementales, les activités que chacun veut faire, la signification que ce lieu peut avoir, etc. C'est ce que l'on appelle une vision holistique de l'espace. Plusieurs outils théoriques de disciplines diverses, architecture, philosophie, ergothérapie, sociologie, urbanisme, psychologie, peuvent aider à comprendre ces situations et la complexité de ces espaces. À titre d'exemple, le concept d'environnement capacitant s'attarde aux aspects inclusifs, sécuritaires et développementaux d'un espace. Le concept de l'habilitation aux occupations va, quant à lui, s'intéresser à l'accompagnement individuel des personnes afin de les aider à effectuer les activités qu'ils souhaitent. Dans une vision plus collective, le concept d'accessibilité universelle va chercher davantage à garantir, par l'adaptation des espaces, une sécurité et une liberté d'action pour tous. Afin d'englober tous ces concepts, nous nous sommes penchés sur le développement du concept d'espace habilitant. Les ingrédients nécessaires à l'espace habilitant. Nous avons proposé ce concept afin d'identifier les critères fondamentaux nécessaires à l'habilitation d'un espace, c'est-à-dire favorisant le bien-être, l'inclusion et le développement de tous. C'est un peu comme si l'on décidait de concevoir une potion dans le but d'aider les professeurs de Poudlard à adapter l'école. Après concertation, 6 ingrédients ont été sélectionnés pour préparer la potion d'espace habilitant. De la sécurité, du confort, de la stimulation afin de maintenir nos sens éveillés et encourager notre développement, de la collaboration qui doit favoriser la communication, le partage et la transparence entre les personnes. En effet, si chacun peut s'exprimer, être entendu, mais également entendre les réalités, besoins et envies des autres, la cohabitation sera plus aisée. Du pouvoir d'agir, qui permettra à chacun de décider, d'être l'acteur principal et le décisionnaire de ce qu'il fait et de la façon dont il occupe l'espace. De la flexibilité qui va permettre à la personne de se réapproprier son espace et de l'adapter en fonction des envies et besoins. Mais l'être humain est complexe. Il faut donc accepter le fait qu'il est impossible de le cerner complètement et que la première version de l'espace ne sera habilitante que temporairement. C'est pour cette raison que l'ingrédient de flexibilité devient indispensable. Il faut que l'espace puisse nous permettre de le modifier en fonction de notre propre évolution. Le meilleur exemple de cette flexibilité est l'aménagement d'une maison intergénérationnelle. Selon l'âge et les besoins spécifiques de ses résidents, apparition ou évolution d'un handicap, passage à l'adolescence, besoin d'agrandissement, elle sera amenée à s'adapter. Une potion réussie n'est pas suffisante. Un espace sécuritaire, confortable, stimulant, collaboratif, flexible et permettant le pouvoir d'agir serait donc un espace habilitant. C'est bien, mais le problème n'est pourtant pas encore complètement résolu. Il faut d'abord et avant tout s'intéresser à la politique et à la législation du contexte dans lequel l'espace se trouve. Par exemple, au Québec, la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, ou encore le plan d'action à l'égard des personnes handicapées du ministère de la Sécurité publique, cadre, responsabilise, oriente et soutiennent l'organisation de l'accompagnement des instances. Ensuite, il importe de mobiliser l'expérience vécue des personnes comme équivalente à celle des différents professionnels qui vont penser et concevoir les espaces. Et oui, si le professeur Rogue est expert des potions et le professeur Flitwick des sortilèges, ils ne pourront rien faire sans l'expertise acquise par le vécu des personnes qui vivent une situation de handicap au quotidien. Cette expertise située est le facteur central à la bonne mise en place d'un espace habilitant. Si, lors de la conception de Poudlard, des semi-géants, des nains, des centaures et des étudiants avaient pu s'exprimer et participer à la conception de l'école, il est certain que ni Harry ni Hagrid n'auraient à revivre ce genre de situation. Ils auraient le sentiment d'être dans les meilleures dispositions pour réaliser leurs occupations et poursuivre leur combat contre les forces du mal. C'était « Garantir l'inclusion des personnes en situation de handicap, la douce magie d'un espace habilitant ». Un texte de Lefebvre Galade et Pierre-Yves Thériault, paru le 25 janvier 2023 dans « La conversation ».